Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Bonjour, c'est Bruno Salomon.
Bon dia, Bruno Salomon.
Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast de France Bleu Paris, épisode 32 aujourd'hui. Je crois que je vais pas le tenir.
Bienvenue nous 100% PSG à Bancada, le podcast de France Bleu Paris, épisode numéro 32 aujourd'hui.
Ah, il le dit très très bien, Gary. Oui, je sais, certains m'ont grondé sur les réseaux sociaux, on s'est fait taper sur les doigts. Je le sais, c'était pas bien hier, c'était jour férié, lendemain de classique. Nous n'étions pas là, on est désolé.
Sim, eu sei, vocês não ficaram muito contentes nas redes sociais. Depois do clássico, no dia feriado, a gente não estávamos presentes, mas a gente estamos desculpados.
Ah, traducteur pas terrible. Alors, pour nous faire pardonner, je vous propose une petite mise en bouche, juste comme ça, pour le plaisir, avant les titres et pour vous dire 100% PSG, viva Portugal.
Então, para nos perdoar, tem aqui uma introdução um pouco diferente e uns títulos um pouco diferentes. E para vos dizer, 100% PSG e viva Portugal!
Kylian Mbappé, oh oui, Vitinha, le ballon récupéré par Vitinha, Vitinha qui va pousser le ballon, Vitinha y passe, Vitinha y va fixer, il y a un 3 contre 2 pour le Paris Saint-Germain, Vitinha il est 4 pour Ousmane Dembélé, il redonne à Vitinha, la frappe de Vitinha, goal pour le Paris Saint-Germain, oh la contre-attaque XXL, goal, 53ème minute de jeu, bim, pam, boum, et là Ousmane Dembélé, merci garçon, il redonne le ballon derrière à Vitinha au point de pénalty, il l'ouvre le pied. But pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ce qu'on veut pour le PSG. Avec un 3 contre 2 pour le PSG à nouveau. Faut le donner, ce ballon pour Marco Asensio, c'est fait. Regarde, Ramos. Oui, c'est fait. Ça va arriver. Le face-à-face. Face à Paulo Lopez. Vas-y. Goal pour le Paris Saint-Germain. 2-0. La contre-attaque de Furieux pour le PSG. Et Gonçalo Ramos qui aligne Paulo Lopez. 2-0 pour le PSG. 85e minute de jeu. Paris est en train d'éteindre le Vélodrome.
100% PSG, la tribune.
Au sommaire de la tribune, 36 heures après le classique du championnat français, remporté encore et toujours par le PSG. Oui, je sais, c'est facile, mais ça fait toujours bien de le dire et de le redire. On va se faire un j'aime pas, bien évidemment, sur cette rencontre. Puis on va se demander, dans cette tribune, pourquoi Vitinha est indispensable au Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain de Luis Enrique. C'est important d'apporter la petite, le petit truc en plus. On glissera ensuite sur la Coupe de France et la Ligue des Champions. Rennes, est-ce que c'est la répétition parfaite pour préparer le FC Barcelone? Et on terminera sur un petit jeune qui agace et comme on aime aussi l'aimer. Et puis c'est aussi un petit jeune qu'on aime et qui nous agace bien parfois. Il est, bon, j'ai pas été grossier, pas trop en tout cas, mais en tout cas Mbappé, est-ce que l'histoire peut bien se terminer avec le Paris Saint-Germain? On va se la poser cette question parce que encore une fois il a fait parler de lui, c'était dimanche. Vous êtes pas passé à côté, c'est obligatoire. Allez chers amis, 100% PSG La Tribune, le podcast, c'est parti, c'est tout de suite et c'est maintenant.
100% PSG, la tribune.
Qui compose l'équipe du jour? Je vais tout de suite saluer mon traducteur officiel, mais surtout journaliste chez Perform Group, Gary De Jesus, l'homme le plus heureux de la Terre depuis dimanche soir, 23h, depuis ce classique 100% portugais. Salut Gary.
Hola.
Hola, bon ça va. Et on a eu un jeu d'acteur, on a été formidable. Franchement.
J'ai tout donné.
Ouais, on a été au maximum. Bienvenue mon Gary et merci d'être avec nous. Une revenante, vous avez entendu son petit rire qui passe vraiment inaperçu en soirée ou dans une émission. C'est notre Queen Bee à nous, c'est Émilie Ross, consultante indépendante, meuf de foot, une historique de la tribune. Heureux de te retrouver, Émilie.
Moi aussi, vous m'avez manqué. Mais je vous regardais, je vous écoutais, tout ça. Mais j'espère surtout que je vous ai manqué à vous.
Bah oui, tu l'as manqué. Et voilà. Tu es de retour et on est ravis. Bienvenue, Émilie. Damien Dole, journaliste à Libération, est avec nous. Salut, Damien.
Salut.
Je précise une chose, c'est que le casting a été réalisé sans trucage avant le classique et avant la prestation XXL de Vitinha. Et Damien et Gary ont répondu en même temps. on peut être présent mardi en après-midi. Donc là, bah, vous imaginez qu'à 23h, c'était validé, bien évidemment, puisqu'on a le président du fan club de Marco Verratti, avec en face le président du fan club de Vitinha. Et bon,
pourquoi poser toujours les deux joueurs
c'est
comme ça,
arrête de poser
les deux
joueurs.
Non, c'est pas possible ça.
Gary,
je comprends pas,
tu vois,
parce
on arrive.
On va bientôt pouvoir dire qu'il est meilleur que lui, donc.
Tout doux, tranquille.
Enfin,
c'est l'homme de la chronique. Vous l'entendiez lui aussi en train de pouffer dans son micro depuis tout à l'heure. C'est le meilleur ami des aficionados et peut-être de l'armée numérique aussi de Kylian Mbappé. Salut.
Salut à tous.
L'homme du billet de France Bleu Paris et du Club des Cinq. Je dis pourquoi je parle d'armée numérique, parce que, en fait, la dernière chronique de Romain a fait un carton intégral sur les réseaux sociaux, mais il s'est fait plein de copains qui lui ont fait des cœurs avec les doigts, qui ont été vraiment très sympas avec toi.
Ouais, ouais, des copains anglophones visiblement.
C'est ça,
donc,
très bizarre.
Voilà, je sais pas d'où ils sortent. C'est voilà. Plus leur anglais, je sais pas d'où ils sortent non plus. Donc c'est assez énigmatique.
Voilà.
Mais
on les embrasse,
bien sûr que les embrasse.
On les embrasse.
Et t'as dit tout le monde était prévu. Je me suis rajouté quand j'ai vu qu'il y avait
avec un emoji popcorn.
C'est ça.
J'assume.
Voilà. Les amis, en tout cas, bienvenue. Vous sentez la bonne humeur, bien évidemment, dans ce podcast. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, je ne l'ai pas dit. Tiens, on peut le dire aussi. Non, je rigole. En portugais, j'allais dire pour les pouces. Je vous rappelle, si vous nous regardez à la, bien sûr, à la télé, sur YouTube, bienvenue déjà. Si vous nous rejoignez dans la communauté, eh bien, du podcast 100% PSG La Tribune. Et n'hésitez pas, un maximum de likes et de commentaires, bien évidemment. Encore une fois, moi, toujours pareil, n'hésitez pas à nous mettre d'où vous nous regardez, d'où vous nous écoutez. C'est toujours très sympa. Et faites-le aussi quand vous nous écoutez en podcast sur iTunes, Spotify, Deezer. N'hésitez pas. J'ai dû en citer trois. Hein, c'est pas parce que je veux m'amuser. Mais je suis obligé d'en citer trois pour la pub, tout ça. Bref, je suis en train de me mélanger. Et si on attaquait par un j'aime pas, 2-0, le 50e classique pour le Paris Saint-Germain, c'était le 107e de l'histoire et il est tombé dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain. On rappelle, comme au bon vieux temps, on est allé les chercher à 10 contre 11. Bon, ok, c'était peut-être pas le match de l'année, surtout en première mi-temps, mais derrière, les contre-attaques fulgurantes du Paris Saint-Germain, comme vous avez pu en entendre, dans les titres, 2-0, victoire pour le PSG, un j'aime pas. On est quatre autour de la table. J'en ai quatre avec moi aujourd'hui autour de la table. J'en suis ravi, mais ce sera un j'aime ou un j'aime pas. Je vais faire comme ça. Bon, bref, c'était un peu. Allez, c'est parti avec Émilie pour fêter le retour.
Moi, j'aime la célébration de Ramos sur son but.
Oui, alors on rappelle les pistolets comme ça. Hop là, ça c'est ça. C'est pistolet. Sa signature habituelle. Voilà, ouais. Les pistolets. Après, on tend les bras.
Ouais.
Voilà, et on va voir le public.
Voilà, donc en tout cas, il célèbre comme il faut. Et moi, j'ai aimé blague à part parce que, pour moi, un classico, ça reste important. Il y a une vraie symbolique. Pas tant technique de jeu ou même de performance, c'était pas le débat. C'est qu'il faut être là et il faut avoir la même hargne que les supporters peuvent avoir sur ce genre de classico. Et du coup, j'ai aimé que ce joueur récent embrasse ce classico et ait conscience de ce qu'on attendait. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais devant ma télé. Et quand je l'ai vu célébrer, j'ai dit « Mais ouais, mon gars, c'est ça qu'on veut. » Alors qu'en soi...
Surtout que c'est rare.
Exactement. Et alors qu'en soi, c'est pas le but de l'année, c'est pas le match de l'année. Mais en fait, j'ai aimé en me disant « Ok, il est avec nous. » Et il sent le Paris Saint-Germain. Et j'ai aimé cet état d'esprit. Vraiment, tu vois, c'est mon souvenir de classico.
Les supporters adverses doivent accepter ma célébration. C'était, voilà, pas un chambrage. C'est comme ça. J'avais envie de la faire. C'est ce qu'il a dit, hein, Gonçalo Ramos. Oui, Gary.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il a déjà joué des classicos Benfica Porto. Il a jamais vraiment célébré à ce point-là.
C'est ce qui
a sauté aux yeux de plein de supporters de Benfica, etc. C'est qu'il est il a vraiment montré sa joie. Je pense qu'il veut il veut vraiment montrer qu'il est là et par rapport à plein de choses qui se sont passées dans cette saison et qui veut rester dans ce club, je pense.
Est-ce qu'il est rentré dans le cœur un peu plus? C'est pas facile pour lui depuis le début, Damien, au Paris Saint-Germain. Il a des miettes pour l'instant qui lui sont laissées par Luis Enrique. Chaque fois qu'il rentre, il est performant, il va marquer, il donne. Est-ce que là, avec un geste comme ça, il rentre un peu plus dans l'histoire, quoi.
C'est sûr qu'on va s'en souvenir. Alors, après, le dernier qui a fait un geste comme ça, c'est Draxler, donc on va pas lui citer la même trajectoire.
C'est marrant, j'en souviens plus.
Au Vélodrome, quand il était, oui, quand il vrai. Était comme ça au Vélodrome. Donc, voilà, on va pas lui citer la même trajectoire. J'ai pas l'impression que Gonçalo Ramos était vraiment dans l'œil du cyclone au niveau des supporters parisiens. Colomoigny, j'ai vu beaucoup plus de critiques contre lui que contre Gonçalo Ramos. On sait que pour lui, c'est un peu compliqué par rapport à voilà, par rapport à son arrivée, etc. On ne sait pas très bien entre Luis Enrique, Luis Campos, etc. Comment, qui a choisi et comment on a réfléchi sur ça. Puis il y a eu les révélations aussi sur sa maladie, ouais, ouais, qu'on a su tardivement, en fait. Enfin, je ne sais pas si, en tout cas, il y avait quelques bribes. En tout cas, quand il s'est exprimé là-dessus, ça explique aussi peut-être pas mal de choses sur ce trou d'air. Après, c'est un peu tôt pour ça. C'est sûr qu'on va s'en souvenir de cette célébration. Parce qu'encore une fois, on se souvient de celle de Draxler. Pourtant, Draxler n'a pas forcément marqué les esprits des supporters parisiens. Donc, celle-là, au moins là-dessus, il va marquer un tout petit peu l'histoire du classique.
Puis il y avait un petit côté aigle des Açores dans ses bras écartés comme ça pour s'envoler. C'était toujours très agréable, bien évidemment. C'est donc le retour de Emily Ross et donc ce j'aime avec Gonçalo Ramos, le buteur, le deuxième buteur dans ce classique face à l'OM là-bas du côté du Vélodrome. C'est très drôle de croiser aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vécu ça là depuis 24h, 36h, tous ces supporters de Marseille. J'en ai un croisé encore tout à l'heure dans le couloir, qui m'a attrapé et qui m'a dit « Non, mais vous ne deviez pas gagner. » Ben oui, mais je suis passé, je lui ai dit « Mais écoute, c'est très gentil de me le dire, mais vous aviez les clés et vous les avez données. »
C'est ça qui est beau, en fait. En fait, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus beau dans cette soirée, c'est que moi, j'ai passé la soirée avec des Marseillais. J'avais des amis marseillais, on était dans une maison, etc. Et donc, c'était très marrant de voir qu'avant le match, ils n'avaient absolument aucune attente, mais qu'ils ont quand même terminé déçus.
je m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Voilà, exactement. Je trouve ça génial.
Je salue le coach de mon fils que j'ai vu le lendemain, qui est un supporter de Marseille, qui me dit « J'y ai cru, je voulais pas y croire, mais j'y ai cru et vous m'énervez. »
Le 10 contre 11, de toute façon, la visionnomie du match au début, tu te dis « Ah bah finalement c'est possible, ils tentent énormément de choses de leur côté. » Et en fait, bah non.
Ouais, tu t'en sors bien. Mais après, derrière, les contre-attaques ont été belles, effectivement. On a été présents du côté du Paris Saint-Germain. Et bravo, en tout cas, et à Vitinha et Ramos pour les deux buts. Le j'aime ou le j'aime pas de Monsieur Romain Bédouc.
J'aime Didio.
Didio.
Didio Donnarumma est actuellement un des, vous mettez dans le top 3 si vous voulez, mais le meilleur gardien du monde, actuellement. Il n'y a pas meilleur que Donnarumma. Il y a pu avoir meilleur en début de saison. Là, en ce moment, il n'y a pas meilleur que lui parce que sur sa ligne, il est écœurant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de genre... C'est que c'est écœurant quand t'as un adversaire de tomber face à Donnarumma, que ce soit sur des frappes simples ou sur des frappes compliquées, des arrêts réflexes, des doubles parades. Et en plus, dans ce qui était une de ses failles, son jeu au pied, il est bien meilleur maintenant. Alors, il l'utilise assez intelligemment, beaucoup moins qu'en début de saison. Donc on sent qu'il a travaillé sur ça, on sent qu'il appréhende beaucoup mieux les trajectoires de ballon quand elles viennent vers lui et quand il doit jouer aussi, mais beaucoup moins de temps à trouver la bonne solution. Il l'utilise avec beaucoup plus de parcimonie, ce qui fait qu'en fait il est beaucoup plus efficace, quoi. Et donc il y a des moments où il n'a pas hésité de faire du jeu long quand il fallait faire du jeu long, parce qu'il est moins complexé par son jeu court et donc il peut se laisser le choix de parfois alterner les deux. Et puis sur sa ligne, c'est une bête, quoi. Donc c'est pour moi, c'est un des meilleurs gardien du monde, peut-être le meilleur gardien du monde actuellement, et il en a trop pris plein la tronche au Paris Saint-Germain pour ne pas le dire quand il est au niveau auquel on l'attendait, puisqu'il arrive quand même en étant meilleur joueur de l'Euro 2021.
Cette rencontre, on le rappelle, 10 parades à faire, ou en tout cas 10 interventions.
Elles
n'ont
pas toutes été compliquées, hein. Il y a des frappes de l'extérieur de la surface, elles sont hyper molles, etc. Donc c'est plutôt facile à faire.
C'est la moitié sur plongeon en plus.
Oui, mais il y a 5 plongeons, il y a des doubles parades. Ouais. Enfin, franchement, il y a des moments, c'est écœurant. Hein.
Juste pour souligner, nos copains du Parisien l'ont élu pour la deuxième fois à la suite homme du mois pour la saison.
C'est pas rassurant normalement. Mais...
Voilà, c'est ça le truc, Damien. C'est que c'est pas. Non, c'est quand ton gardien est l'un des meilleurs joueurs. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle?
Bah finalement, on fait deux mois qui sont plutôt satisfaisants. Donc à vrai dire, voilà, on peut.
On s'appuie sur le gardien.
Oui, en fait, en vrai, enfin moi, je suis à la fois rassuré et aussi, je suis super heureux pour lui parce que c'est un gars déjà que j'aime bien, qu'on avait pris plein la tronche à la fin de sa vie footballistique à Milan et pour des raisons qu'on comprend totalement, les supporters de Milan. Et puis il a eu beaucoup, voilà, il a eu des moments des passes un peu compliquées sur des cagades qui étaient pas très jolies à voir, mais c'est vrai que autant sur ces plongeons on connaissait, il y a sur certaines sorties aériennes il sort un peu plus qu'avant aussi, tout petit peu plus qu'avant, mais c'est vrai surtout c'est sur son jeu au pied et notamment quelque chose qui n'arrivait quasiment jamais, alors que ça nous paraissait le béaba pour un gardien d'une équipe comme ça, c'est-à-dire les sortes de balles piquées sur le côté au latéral pour sauter en fait le premier pressing adverse et une bonne balle piquée, c'est-à-dire une balle qui arrive pas trop haute, pas trop forte, juste ce qu'il faut. Et ça maintenant, alors je sais pas si c'est un travail d'entraînement, si Luis Enrique a appuyé là-dessus, s'il l'a mis en confiance, si lui il a une préparation mentale différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
même quand on le voyait avant d'arriver à Paris, il ne faisait pas ça. Donc il y a une espèce de, je sais pas, il y a eu un truc cette saison qui s'est déroulé, je sais pas, mais enfin il faudrait lui poser la question d'ailleurs au crédit de qui il faudrait le mettre celui-là.
C'est un gardien heureux, apaisé, en tout cas qui nous fait des prestations effectivement XXL. Gary, ton j'aime ou ton j'aime pas?
Moi, j'aime pas.
Ah, bravo.
Il en faut bien.
Après un classique, on vient nous sortir un j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, parce que j'ai des petites inquiétudes malgré tout. C'est un, bien sûr, le PSG a roulé sur Marseille, il n'y a pas de souci. Mais dans ce match, l'entrée de Milan Skriniar m'a effrayé. Pour ne pas dire plus.
J'ai tiré sur une ambulance, mais dans tous les sens du terme, là, en plus.
Ah, voilà, c'est vrai.
Non, ça a été très compliqué. Son entrée, il a pas perdu, bien sûr, cette lenteur et cette difficulté à bouger cette grosse carcasse. Mais c'est vrai qu'on le sent encore moins rassurant qu'il l'a été. Et bien sûr, c'est certainement dû à son retour. C'est normal. Mais déjà que je le trouvais pas époustouflant depuis son arrivée. Là, le voir revenir dans un cadre de classique et ensuite là où les matchs vont être vraiment très importants, j'ai peur que Luis Enrique compte un peu trop sur lui.
Là, en fait, c'est vrai qu'il a pas, voilà, il a pas, c'était pas un cadeau de l'envoyer dans le Bourbier à 1-0, Émilie, en reprise après 2 mois et demi, voire 3 mois, extrêmement compliqué, comme il l'a dit.
Oui, alors moi, le truc, c'est que je ne vais pas plaindre ce monsieur, dans le sens où, rappelez-vous que l'an passé, on nous a saoulés en nous expliquant qu'on passait à côté du joueur du siècle et que ça a créé des divergences entre Campos et Monsieur Galtier. Aujourd'hui, je me dis, bon, oui, il y a peut-être raison de se prendre un peu la tête, mais pas forcément pour le bon côté du joueur, en fait. Donc, moi, je n'arrive pas effectivement à accrocher à ce joueur, mais peut-être parce qu'on me l'a trop survendu, on me l'a trop vendu avec une attente voilà, terrible en disant qu'il allait effectivement me réconcilier avec beaucoup de choses sur ce poste-là. Et en fait, bah, non, pas de ouf. Après, effectivement, sur son entrée, tu reviens de blessure, etc. C'est pas un cadeau, t'es en pâte ou tu l'es pas, en fait. Pardon, mais à ce niveau-là, c'est pas un bébé joueur, c'est pas un junior, c'est donc je suis désolée, je n'ai pas énormément d'empathie pour Skriniar. Que j'embrasse hein, quand même, mais
ouais, il nous regarde et c'est l'un des seuls à vraiment pas l'un des seuls, parce que ouais, il prend des cours de français. On l'attend sur les cours de français très très prochainement, en tout cas à parler en français. Romain, tu voulais réagir.
Ouais, peut-être que pas obligé, hein, mais
tu penses qu'il va repartir. Bah,
parce qu'en juillet, ce sera sauf s'il va en Belgique à la rigueur, je
dirais. T'attaches pas trop.
Je suis bien évidemment d'accord avec l'analyse sur ça. Rentrée contre Marseille qui était tout sauf rassurante. Je ne vais pas le rejuger par rapport à ça parce qu'il y a la prise de rythme et puis on a vu déjà qu'en début de saison, il était assez lent sur certaines actions. Mais là où c'est intéressant ce que dit Émilie, c'est la manière dont on nous a vendu le joueur et ce qu'il est devenu entre le moment où on nous l'a vendu et ce qu'il est maintenant. Le problème, c'est que si on se rappelle bien, Skriniar, on doit le faire à l'été 2022. On doit le faire dans cet été-là. Il y a des premières rumeurs.
Un prix exorbitant.
Oui, un prix très cher, 60 millions, je crois que c'était à peu près.
Je crois que tu peux monter plus.
À un an de la fin de son contrat.
Il y a des problèmes de dos, etc.
À l'été de 2022. Sauf que le dossier s'éternise, on ne le fait pas à l'été 2022, et il se blesse au dos pendant la saison. Et pendant la saison, il est handicapé une très grande partie de la saison. Il revient sur la fin de saison. On doit le faire en janvier, mais il est blessé. On se dit, on l'aura peut-être gratuitement l'été d'après. Et donc, on ne le fait pas en janvier. Et on en parle aussi énormément parce qu'on manque vraiment de défenseurs centraux l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la rotation, c'est Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Et après, c'était Danilo qui n'était pas vraiment un cellule
de
central.
C'était
le seul nom. En fait, c'était le refuge parce qu'on n'avait pas de défenseurs centraux et que c'était à l'époque un bon. Mais le problème,
il n'y a qu'un seul nom qui ressort alors que tu as une cellule de recrutement. Tu as des mecs comme Luis Campos qui bossent bien.
Mais tu
restes sur Skriniar pendant des mois et des mois et des mois malgré ses blessures, malgré sa baisse de forme. Au bout d'un moment, il faut peut-être passer à autre chose.
En fait, c'est ça le problème. Le principal problème, c'est que tu as pris une situation à l'été 2022, tu l'as calqué à l'été 2023 comme si c'était rien passé pendant un an. Et pendant un an, il s'est passé une blessure qui handicape peut-être la suite de sa carrière. Et on le voit là maintenant, c'est pas moi qui regardais les matchs de l'Inter, c'est pas le Skriniar qui avait à l'Inter les 3-4 dernières années, quoi. Donc je vais pas aller taper sur le joueur. je vais vraiment aller taper sur la manière dont il a été recruté, et pas que cet été, déjà, ça date de plus d'un an.
On va juste rappeler, moi, l'expression que j'aime de la part de notre copain Mathieu Faure, que l'on embrasse, il a du verre pilé dans les pompes, voilà, pour marcher sur le terrain. Il nous a incité à ne pas hésiter à y aller un peu fort.
Mais
sur
Skriniar. C'est pas de sa faute, Milan
Skriniar. Juste, moi, j'ai une crainte dans le psyché de notre coach, Beraldo est suspendu pour le match de Rennes. Qui pourrait être titulaire finalement? Marquinhos, qui pourrait être de retour, ou comme Skriniar est rentré dans la rotation, tu y vas, Damien, toi tu choisis qui? Tu y vas avec Marquinhos qui serait de retour, ou tu tentes Skriniar quand même face à Rennes?
J'ai souvent été sévère avec Marquinhos, mais je pense que Marquinhos de retour de blessure et Skriniar de retour de blessure, je prends Marquinhos de retour de blessure quand même. Et après, je crois, alors après peut-être que je me gourre, mais que Luis Enrique n'aime pas forcément faire jouer directement titulaire les joueurs qui reviennent de blessure, peu importe leur statut d'ailleurs. Donc voilà, donc faut vraiment là-dessus, je sais vraiment pas comment est-ce qu'il va faire Lucas Hernandez et Danilo dans l'axe.
Avec Mendes sur le côté.
Voilà, là-dessus, je suis vraiment dans l'interrogation. Bon, ça, c'est pas la première fois qu'on sera dans l'interrogation avec lui et qu'il nous surprendra une fois la composition en place.
Des 20h, là, quand tu attends fébrilement désormais.
Ah, ouais, quelle est la surprise du jour?
Quelle est la surprise du chef? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est ce qui se passe très régulièrement en tribune de presse au Parc des Princes ou à l'extérieur. Ce qui est assez rigolo, c'est de voir à l'extérieur les confrères qui viennent te voir en disant qu'est-ce qu'il nous a fait cette fois-ci? Est-ce que tu peux
m'expliquer? Des commentaires pleins de ratures.
C'est ça, effectivement. Damien, avec toi, on termine par ton j'aime ou ton j'aime pas.
J'aime cette quasi série d'invincibilité contre Marseille depuis 2011. On a perdu que deux fois, donc une fois en championnat. On s'en souvient, c'était vraiment sortie de Covid et de Final Eight. Ça avait une saveur un peu particulière, sauf qu'on était dégoûté pour le résultat, mais on savait qu'il y avait des conditions objectives qui faisaient que ce match-là était perdu. Et puis, il y a évidemment cette défaite en coupe qui nous a fait, qui m'a fait beaucoup de mal. Et en vrai, quand j'ai couché mon fils, là, Marco, avant de le faux, hein, enfin le vrai, enfin le mien, quoi.
Le vrai, le tien. Reste au concentré d'elle.
Parce que j'ai senti qu'il y avait un moment de flottement là. et je lui ai dit, tu sais, tu as de la chance, parce que toi, en fait, t'as quasiment plus connu des victoires depuis que t'es né. Et il me dit, mais toi, à l'époque, et je dis, nous, on a eu quelques bonnes périodes. Donc il y a eu le super 8 là.
Ouais.
Il y a eu la finale en coupe en 2006. Et il y a eu quelques victoires, etc., évidemment, soit avec Marco Simone, etc., mais voilà, on était vraiment dans la crainte de perdre et donc de se faire moquer les jours d'après. Alors aussi, il y a beaucoup plus de supporters de Marseille en Ile-de-France à l'époque qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai, même dans les jeunes générations, etc. Moi, quand je demande
à beaucoup moins de Parisiens à Marseille aussi. à l'époque.
Oui, c'est ça, exactement, oui. Et en fait, ça fait juste du bien. Moi, je voulais juste qu'ils gagnent. Pour être rassuré, pour continuer en fait à être comme ça dans un espèce de moment de plénitude en fait, cette espèce de parenthèse qu'on a là depuis 13 ans et voilà, en fait j'étais vraiment satisfait, j'étais vraiment heureux et c'est vrai que sur certains matchs de Paris quand ils gagnent, en fait je saute plus forcément, peut-être que c'est un peu d'âge et que je commence à devenir intelligent avec le football, mais je saute plus partout en fait sur chaque but contre des clubs de moindre mesure. En revanche, contre Marseille, c'est sûr que j'ai sauté, j'ai pris mon fils dans les bras, j'ai foutu en l'air, etc. Et voilà. Et ça, voilà. Et
vraiment, j'étais.
Il va bien. Et voilà. Je l'ai couché après. Donc, c'était pensé pour ça, en fait. J'ai couché à la mi-temps. Merci pour la Mais voilà. Mais ça, voilà. Ça, en fait, ça fait du bien. Et encore une fois, je pense, enfin, les jeunes auditeurs qui nous écoutent, les jeunes personnes qui nous regardent sur YouTube, doivent se rendre compte, en fait, la chance qu'on a, supporters parisiens, de pouvoir se dire, en fait, voilà, on est quasiment sûr de gagner contre Marseille. Et les quelques fois, il y a match nul ou il y a défaite, c'est terrible. Mais voilà, on sait que, voilà, on est dans une super période depuis 13 ans.
On est, depuis l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain, sur une série de... Alors, il y a 29 matchs. T'as perdu une fois, le fameux 3-0 là, avec Pastore.
Le tout premier.
Avec Comboy, ils n'ont rien compris.
C'est 2011,
ce qui
leur arrive,
ils sont marchés sur les pompes. On ne sait plus ce qu'il y habite. Et après, depuis, effectivement, il n'y a que 3 défaites. Sous l'ère QSI, il n'y a que 3 défaites. Et pour le reste, il y a 2 nuls qui traînent. Et le reste, c'est de la victoire.
3 défaites en comptant celle-là.
Avec la coupe de, ouais, moi je te compte tout, je te coupe Coupe de France.
Ah oui, tu comptes ce match-là en novembre 2011, le 2020, sortie Final 8 et Coupe.
C'est ça, c'est tout
à fait. La Coupe l'année dernière, merci Galtier.
C'est tout à fait ça. Excusez-moi, je coupe mon portable, je vous ai demandé de le faire, bien sûr.
Et nous, on l'a fait.
Voilà. Et c'est le mien qui sonne.
juste donc ça c'est en tout cas c'est important pour le Paris Saint-Germain, c'est vrai que ça fait du bien et je te confirme que quand tu prends le train pour aller à Marseille, et ben t'as des trentenaires, quarantenaires qui descendent, tu sens cette génération qui a supporté Marseille, qui avait 15 balais, 20 balais à l'époque dans les années 2000 sur Paris, qui descendent et prennent leur petit train pour aller voir Marseille se faire des culottés une nouvelle fois.
Ça coûte cher de prendre une défaite, c'est sûr. Mais
c'est sûr, bah ils y croient.
Mais en plus, franchement, juste en fait, je me moque pas trop. Je suis jamais, moi, vous m'enverrez, il y a jamais un de mes potes marseillais qui recevra une vanne, etc.
Ah, pareil,
parce que je sais que le jour, en fait, où Paris va commencer à décliner, etc. Mm. Au moins, je sais que moi, je suis safe. Je suis, écoute, je t'ai pas fait chier pendant toutes ces années-là.
Tu sais que moi, je me suis
retrouvé. Tu vas pas me la faire à l'envers, etc. Et en fait, vraiment, j'invite chacun à bien mesurer quand il chambre, parce que tout ça ne durera pas éternellement. C'est aucun club dans l'histoire du football
pense que dure éternellement. Je pense qu'avec les Marseillais, que tu sois sobre ou pas, tu te prendras un retour de bâton quand même.
Moi, franchement, ça va.
Mais moi, le jour où on perd en Coupe de France, des gens que avec qui tu tchatches pas habituellement,
ils viennent.
Des gens de ton boulot qui t'envoient des trucs à 23h minuit, t'es là, non mais attends-toi, est-ce que moi je t'envoie une photo de moi au vélodrome en train de faire.
Pour ça, il faut le faire. En fait, il faut le faire. Il faut le faire parce que de toute manière, ils vont.
Romain et son armée numérique.
Ils rendront un plaisir.
Toute la famille Idol a sauté de joie sur un but de Vitinha.
Mais comment va bien.
Vraiment pour terminer.
Et de Gonçalo Ramos.
Vraiment pour terminer sur Marseille et revenir un peu sur le gemme d'Emily, plus que la célébration, etc. Les silences dans le vélodrome.
Ah mais ça c'est faut le vivre. En fait, tu sais quoi? Vraiment, j'ai cette chance là, faut le vivre. Vraiment, quand ça se coupe,
passe du sifflet du sifflet de l'action à la balle qui passe la ligne. Oh, c'est incroyable.
Et après quand c'est incroyable.
Mais un stade plein comme un œuf. Il faut aussi reconnaître le côté,
pas à la 85e, mais ouais.
Oui, mais ça joue, enfin voilà, ça mais joue quand contre, même mais sur, ça nous aide au spectacle.
T'es dans 100% Marseille, là, ou
quoi? Non, mais moi je
pense que tu faut dire que
tu savais pas que chez nous il pleut,
que Marseille est la ville du foot comme un certain.
Non, mais je vois bien, enfin je vous dis ça parce que j'étais à Montpellier la semaine d'avant et la journée d'avant, et en fait tu sens bien que là où va le Paris Saint-Germain, les stades se remplissent, et ça aussi c'est un argument je trouve important, parce que oui, tu vas attirer du monde plus qu'une autre équipe, et je trouve ça bien, parce que comme tu le dis Damien, il faut que ça aussi ça dure. Enfin, pour moi c'est un argument aussi important qu'on doit chérir.
En tout cas, j'invite, je sais pas quel est l'humoriste qui nous apprécie et qui apprécie le Paris, il y en a quelques-uns quand même. Le PSG, je pense à certains copains, mais vivement le tifo. Voilà, j'ai sorti ma vanne vivant le typhon Patrick Bosso, mais voilà, personne n'a rebondi. J'adore cette polémique. Un typhon payé. Ouais, mais on a déjà eu un typhon payé quand même. Faut pas trop qu'on se moque aussi du côté du PSG.
Bien sûr, quand même.
Parce qu'on en a
vu. Là où ça la fout mal, c'est qu'ils font ce typhon payé avec Redon Bougueraba.
Pourquoi on parle de Marseille? Stop.
Là-bas, ils le font le jour de l'anniversaire de la mort de Pape Diouf, tu vois. Ça a aucun sens, tu vois. Pour l'histoire du club, ça a pas de sens, tu vois.
C'est fini. Voilà, je veux plus entendre parler de Marseille. On va le faire 1:30 sur Marseille. Voilà, très bien. Allez, terminé. Les amis, on passe au débat et on attaque. On attaque, les amis. Oui, il est temps de se lancer. Vous avez sorti le pop-corn, je sais. Et cette question, pourquoi Vitinha est indispensable au PSG de Luis Enrique? Mais avant cela, chers amis, avant cela, j'ai un homme dans ce studio qui m'a dit, Bruno, quand on lancera le débat, je veux prendre la parole, j'ai des choses à dire. Alors, il doit le dire. Gary, je te laisse prendre la parole.
Effectivement, je voulais voir Damien Dole droit dans les yeux pour lui faire un joli cadeau. Parce que j'écoute, je suis un auditeur du podcast.
Alors là, on a Gary qui est en train de chercher. Pour ceux qui ne voient pas à la télé, il y a Gary qui cherche dans un sac. Qu'est-ce que tu nous sors? Qu'est-ce que tu veux?
Je lui ai fait une petite surprise. Lui qui voulait nous parler. Il nous avait dit, j'ai cette phrase qui me revient en tête.
C'est génial.
C'est un t-shirt avec marqué je me suis gouré sur Vitinha, Damien Dole, la photo de Vitinha avec
les cœurs. Qui pointe ses deux doigts.
Alors vas-y, je te laisse.
Je l'ai un peu personnalisé.
Super.
J'ai mis des petits drapeaux.
Avec le drapeau du Portugal, je te laisse lui apporter.
Le drapeau du Portugal.
Pour ceux qui veulent voir la séquence, bien évidemment.
Le drapeau du Portugal, t'as la chose la plus belle sur ce t-shirt quand même.
Alors, tu étais obligé de le prendre, Damien, dans les mains déjà.
Génial.
Pour toi quand même, c'est un cadeau. Un petit bisou, non, même pas une petite... voilà.
Oh, la collade. Allez, vous ne le voyez pas, mais Damien est en larmes et saigne du nez.
J'ai honte, mais je vais le mettre.
Est-ce que tu
veux
tu peux nous faire au moins voir le t-shirt?
Alors, je tiens à dire que ce t-shirt-là, je le mettrai pour aller même au boulot et pour venir au podcast dans une même journée. Si Vitinha réalise cette prestation-là,
contre le Barcelone. Je l'ai dit. Enfin, cette prestation-là, réalise un bon match. Ok, je dis même pas.
Oh là là, ça va.
Ouais, c'est bien.
Ça va.
Ce t-shirt est génial. Très bien.
Il faut que Romain te suive en vlog. C'est pas mal ça. Pour les réseaux sociaux.
Attends, les livres vont dire tes conneries. C'est bon.
Il est incroyable le t-shirt.
Le t-shirt est magnifique.
Je sais pas comment je dois le voir.
Je suis entre l'hommage,
d'apprécier l'hommage.
Bouge pas.
Mais j'ai pas le mettre maintenant quand même parce que.
Non, pas encore. C'est trop tôt.
Voilà, juste pour bien le voir.
Non, mais là, c'est vraiment Patrick Sébastien. Au début, c'est le plus grand cabaret.
Ce t-shirt est beau, sérieusement.
C'est le plus grand cabaret de France Bleu, là, franchement.
Et bon anniversaire, Damien.
Ouais, Damien, bravo.
C'est le 17
juin. Franchement, Gary, déjà, bravo. C'est beau, Damien.
Ce qui est drôle,
c'est que cadeau qu'on t'a fait dans cette émission.
Je suis né le 17 août et je crois que Vitinha est le 18 août, je crois, en plus. Quand j'ai remarqué ça, je ne connais pas par cœur. Tu vois, il commence à s'attacher.
Il connaît sa date de naissance.
Bravo.
Je suis heureux de voir que l'amour de Damien Dole pour le PSG est plus fort que son désamour pour Vitinha. Et que petit à petit, il nous rejoint tous sur le fait que Vitinha est le meilleur milieu du Paris Saint-Germain actuellement. Pas loin d'être le meilleur joueur, on y arrive petit à petit.
J'espère que t'as pas payé cette blinde, voire faut que tu fasses une note de frais. Faut que tu fasses une note de frais à France Bleu.
Tu connais le Portugal, on a des contacts pour ça. C'est une tante qu'il a fait.
Allez les amis, Vitinha est-il, on vient parler bien évidemment, est-il indispensable et pourquoi Vitinha est indispensable au jeu de Luis Enrique? Damien, je vais pas venir te chercher là-dessus tout de suite. Gary, d'abord avec toi, pourquoi en fait finalement il s'est rendu indispensable au jeu d'Enrique?
Parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps au Paris Saint-Germain, même quand Vitinha était déjà là, la saison d'avant, où il livrait pas de telles prestations. C'est un milieu de terrain qui apporte quelque chose en termes de création, qu'il soit en 6, qu'il soit en 8, qu'il soit un peu plus libre à l'avant de ce milieu de terrain. On a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps au Paris Saint-Germain, c'est un milieu de terrain créatif, qui crée du jeu, qui va vers l'avant. Malgré ce qu'on entendait en début de saison, le but contre Marseille le montre. Hein, il récupère, il avance, il prend le ballon, il casse des lignes. Ils sont 1-2 avec Dembélé. Et ensuite, il marque. Et quelque chose qui sur ce but qui est flagrant, c'est le fait qu'il ne passe à aucun moment le ballon à Kylian Mbappé. Et ça, pour moi, c'est que vraiment, ce Vitinha s'installe dans ce Paris Saint-Germain en tant que patron, parce que avant, l'année dernière, il aurait passé à Messi, à Neymar, à Mbappé 3 fois avant de pouvoir arriver au but. Et je pense que ça lui donne même une autre ampleur qu'on n'a pas encore vue au Portugal. C'est ses projections où il ne le faisait pas autant. Je le rappelle souvent parce qu'on dit que Vitinha en 6, c'est une idée de Luis Enrique ou c'est une invention. Ce n'est pas du tout une invention. Quand il était à Porto, où il a explosé sa meilleure saison à Porto, c'était en double 6 avec Uribe. Et ensuite, il est parti au Paris Saint-Germain et on le faisait jouer plus haut. Et donc là, c'est l'endroit où il est le plus allé sur le terrain. Le fait de le voir plus haut, c'est quelque chose de nouveau, malgré ce qu'on peut penser.
Avec Luis Enrique, juste pour vous dire, la petite déclaration, c'est pour ça que je viens vous poser cette question et qu'on débat autour de Vitinha.
Oh, tu m'as convaincu, je vais mettre le t-shirt.
Oh, c'est beau. C'est un joueur parfait pour un entraîneur de mon style. Il ne perd pas le ballon. C'est exactement ce que l'on veut faire dans notre style. Et à noter que Vitinha est impliqué sur 12 buts cette saison du Paris Saint-Germain. T'es vraiment beau avec ce t-shirt. Oh, ça te va parfaitement. Mon Damien, je vais d'abord vers Romain et après on viendra voir notre Damien avec
j'assume toujours.
Romain, est-ce que tu rejoins Gary sur cette analyse?
Bien sûr. Mais pour répondre à ta question, pourquoi il est important, pourquoi il est importantissime dans ce schéma de Luis Enrique? Parce que c'est un joueur intelligent. C'est probablement le milieu de terrain le plus intelligent sur le terrain en vision du jeu qu'on ait. Il sait se placer. Il sait les choix qu'il faut faire. Il est beaucoup plus, comme tu le disais, désinhibé maintenant pour prendre la solution personnelle quand il faut la prendre. Mais en même temps, il respecte le jeu. Il fait des compensations. Il défend. Moi, si je dois faire un choix de position, Vitinha, pour moi, est le meilleur milieu de terrain du PSG actuellement. Et si on voit depuis le début de la saison, c'est le meilleur. Je pense qu'entre les deux rôles, 6 et 8, il a plus de joueurs qui vont pouvoir se rapprocher de son niveau en 8 que de joueurs qui vont se rapprocher de son niveau en 6. Donc je préfère l'avoir en 6 et avoir des joueurs qui vont avoir un niveau peut-être un peu moins, mais pas non plus un grand tricard en 8 avec lui. Et donc effectivement, quand il est plus bas comme ça, comme on l'avait vu contre Dortmund notamment, le match décisif là-bas, il est tout de suite beaucoup plus connecté au jeu, la relance est beaucoup plus propre, il sait se retourner, il est bon sous pressing Vitinha.
Et en plus, maintenant, il prend la balle et il commence à aller à faire des rushs balle au pied. Tu le disais, il la donne pas à Mbappé, mais il le regarde. C'est pas, il a ignoré Mbappé sur l'action.
Profite de son
c'est
appel.
Qu'il a profité de l'appel de Mbappé pour faire la meilleure des solutions, qui était de la mettre à Dembélé, qui Dembélé en plus, comme il savait qu'il venait de rater trois frappes de suite en les mettant à côté, Dembélé, il savait qu'il allait pouvoir lui remettre et il était bien positionné. C'est franchement, c'est le joueur, un des joueurs les plus intelligents de tout l'effectif, et c'est pour moi au milieu de terrain le plus intelligent, ce qui fait que il arrive à se rendre utile quel que soit son positionnement et sa place sur le terrain.
Alors pour ceux qui ne n'ont pas la vidéo, nous avons donc désormais un Damien avec le t-shirt, un petit t-shirt pistache. Je me suis gouré sur Vitinha. Voilà, c'est ça, c'est pistache. Hein, tu vois, on est bien. Et mon Damien, est-ce que tu es convaincu par les arguments et est-ce que tu es convaincu par le joueur? Parce que là, face à Marseille, il a quand même. J'ai vu des gens qui commencent à nous dire, on a Iniesta désormais au milieu de terrain, alors qu'avant c'était pas Iker Muratti.
Je les remercie, comme ça on peut toujours, comme ça on peut encore relativiser. Je vais faire deux concessions. Et je vais maintenir une chose. Je vais faire une première concession sur le fait que, c'était il y a quatre émissions, je sais plus, j'avais dit que Zaïre Emery était selon moi le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain cette saison. Force est de constater que depuis, il y a eu quelques matchs qui se sont écoulés, et notamment celui contre Marseille, qui est un match qui est, quoi qu'on en dise, hyper important dans la saison, et c'est assez dans ces moments-là qu'on attend aussi des joueurs, où il y en a certains qui performent contre des clubs, soit moyens, soit dans des matchs qui sont moins importants. Alors que là, il a été très performant pendant peut-être 70 minutes peut-être du match, où il a été vraiment très bon là-dessus. Je vais faire une deuxième concession. Ce sont jeux vers l'avant. Alors, c'est marrant parce que le journaliste terrain là, sur Amazon, il disait que Luis Enrique était furieux contre lui parce qu'il voulait qu'il aille vers l'avant. Donc moi, je ne sais pas. En fait, on ne sait jamais si c'est des interprétations du gars sur ou si c'est vrai. Alors, si c'est vrai, en fait, il a bien fait d'écouter Luis Enrique parce que son but... On parle évidemment de sa conduite de balle et parce qu'en plus il y a eu un sang-froid il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont retrouvés dans cette position des matchs très importants et notamment au Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé par exemple notamment contre le Bayern qui était même encore plus proche et qui ne la mettent pas, donc déjà ça c'est vraiment à mettre à son
crédit. En finale de Ligue des Champions face à Neuer.
Voilà, on peut rappeler ça. Et comment dire, donc ça c'est une première chose, mais c'est surtout le début de l'action en fait, il fait quelque chose que moi personnellement je ne le connaissais pas à ce point-là, c'est-à-dire quand il fait un petit truc de la semelle là, et puis après il arrive en fait à éliminer deux joueurs sur récupération puis un petit coup de rein et de tenir la balle et de faire exactement toutes les bonnes décisions sur l'action. Voilà. Bon, ça c'est
ça t'a concédé. Bravo. Je suis content. On est fiers de toi.
C'est le t-shirt.
C'est le t-shirt.
Mais
non, c'est parce que j'ai concédé ça que j'accepte de mettre ce t-shirt.
Mais comme le dirait Luis Enrique, si tu mets un mais, tout ce que t'as dit avant, c'est balayé.
Non, en plus non, je maintiens ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que j'attends qu'il fasse ses prestations là en Ligue des Champions, mais comme j'attends ça de tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Mbappé, moi, il peut marquer tous les buts qu'il veut dans toute cette saison. En fait, s'il disparaît comme là, il est en train de disparaître ces dernières dans le jeu. Alors, ça fait ces derniers mois et même dans les stats, voilà, il est moins performant. C'est dans la double confrontation contre le Barça et si qualification il y a sur la demi-finale. Moi, je l'attends là. Après, tu dis que c'est le meilleur milieu de terrain. En fait, il y a aussi un problème, c'est que c'est au vu de la concurrence. C'est-à-dire que Vitinha, meilleur milieu de terrain, peut-être en 2014, ça aurait été peut-être plus compliqué. Alors évidemment, il ne faut pas faire des...
Mais c'est le meilleur milieu de terrain. C'est pas le meilleur milieu de terrain parce que les autres ne sont pas bons.
Fait des concessions.
Oui, non, mais d'accord, ok.
C'est comme
parce que tu as fait des concessions, tu vas avoir raison sur tout.
Je fais un pas vers toi, tu peux faire un pas vers moi, tranquillement. Soit dans la concorde, ça passe toujours négatif comme ça, Romain. C'est pas possible. Sinon, moi aussi, je vais t'écrire en anglais.
Tu parles de Ligue des Champions, mais... On dit que le huitième de finale a été facile. Effectivement, le retour a été facile. Le PSG s'est rendu ce match facile. Le match aller, on est en galère. On est en galère sur la première période. Et ce qui change, c'est le replacement de Vitinha. Et la deuxième mi-temps face à la Real Sociedad au Parc des Princes est bien plus maîtrisée parce qu'il y a Vitinha. Donc, tu as une vraie corrélation entre l'importance que peut avoir Vitinha et le scénario d'un match qui change et qui donne une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.
Pour revenir sur la question juste de Bruno, justement, elle est peut-être là la clé. C'est que Galtier n'était pas un entraîneur de football suffisamment qualifié en fait pour pouvoir faire jouer des joueurs qui sont sûrement bons, voire très bons, voire excellents, mais qui arrivent dans un club avec une dimension beaucoup plus importante que ce qu'ils ont connu. Alors que Luis Enrique, en fait, a une qualité en fait assez extraordinaire sur le fait de sentir les joueurs. Parfois, il se trompe, comme absolument Guardiola s'est trompé. Tout le monde se trompe, c'est pas le souci. Mais il a une finesse d'analyse qui est extraordinaire. Et sur Vitinha, en fait, oui, il est sûrement peut-être un peu plus sur son dos. C'est peut-être lui qui le replace plus souvent dans des endroits parce qu'il sent en fait que là, à ce moment-là, par rapport à ce qu'il voit de l'adversaire et de l'équipe, c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre Vitinha, quitte à se gourer en début de match contre la Real Sociedad, à réajuster. Et en effet, son replacement, en fait, il participe de la qualification du Paris Saint-Germain.
Émilie, sur Vitinha, c'est vrai que le personnage est assez intéressant. C'est qu'on a un garçon qui, l'année dernière, a brillé 3 mois, a disparu complet, s'est fait manger par un vestiaire et est en train de prendre toute sa place sportive grâce à Luis Enrique et avec ce PSG.
Oui, et puis alors déjà, moi, un milieu qui tire, qui tente et qui marque... Moi déjà, ça me rassure et ça me fait du bien. Après, je pense qu'effectivement, on essaye toujours de comparer ces milieux de terrain qu'on attendait, qu'on espère, on a des souvenirs de ce qu'on aimerait voir, etc. Moi, j'aime beaucoup ce joueur qu'il est, tant sur le terrain et sur sa clairvoyance dans le jeu. Parce qu'effectivement, tu le sens tout observé, tu ne le sens pas individualiste, alors qu'il est capable de performances individuelles. Il travaille pour l'équipe. Et je vais revenir aussi sur un point, mais vous savez, moi, il m'est cher, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que généralement, dans les célébrations, dans le fait aussi d'alpaguer l'équipe, etc., alors que c'est un jeune joueur, que tu ne t'attends pas à ça, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup le fait, qu'il contribue au jeu, le fait d'avoir un milieu qui marque, je le répète, mais moi, ça me soulage, en fait. Ça me soulage, ça me rassure. Oui, enfin, tu vois, et ça, pour le coup, ça nous manquait. Donc après, c'est une autre typologie de joueur, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il est capable de proposer. Et par contre, là où je rejoins Damien, mais à 800%, c'est qu'on peut flatter tout le monde, mais j'attends énormément moi en Ligue des Champions, parce que c'est là où le bas blesse en fait. Si tu veux en championnat, c'est bon, ça me rassure, c'est-à-dire que ça me rassure sur ce collectif, sur les individualités, sur ce que je suis capable de regarder, d'observer. Mais là où j'attends vraiment des choses, c'est la Ligue des Champions, parce que j'ai toujours en travers de la gorge, en fait. C'est vraiment là que j'attends des choses.
Je vous le dis, il n'a que 24 ans. Je suis allé tout de suite sur Internet pour me rappeler l'âge. Je vous le dis, il a 24 ans, mais il finira directeur sportif. Tu le vois parler, quand il vient te parler à la presse, c'est déjà un DS, en fait. Tu sais déjà que ça va se terminer comme ça, ou agent, ou je ne sais pas, mais j'ai l'impression de revoir Maxwell quand il commençait à parler en français. C'est assez impressionnant. Oui, Gary, pour terminer et clore sur Vitinha, et ensuite, il sera temps de faire une première pause dans ce podcast.
Non, juste pour revenir sur les performances en Ligue des Champions, comme l'a dit Romain, je veux dire, son repositionnement contre la Real a montré qu'il était indispensable, et pour répondre à ta question aussi au PSG. Ensuite, moi je vous dis souvent qu'au Portugal, on s'en moque un petit peu des résultats du PSG, on parle juste du résultat et on creuse pas plus. Mais là, ça avait été le cas quand Gonçalo Ramos avait marqué déjà avant, mais pour cette prestation de Vitinha contre Marseille dans un classique, c'est quelque chose qui a eu quand même un gros retentissement. J'ai vu des influenceurs, des journalistes influenceurs sur Twitter demander sa titularisation pour l'Euro, et vraiment on le voit éclore au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que pour donner un pas, moi aussi je fais un pas vers toi, tu vois. C'est-à-dire que le Vitinha qui est arrivé au Paris Saint-Germain l'année dernière, il n'était pas fini. Et vraiment, ce contact qu'il a eu, et on le voit, on est plusieurs à le voir depuis le début de la saison.
Il a su en tirer le meilleur, parce qu'il aurait pu aussi, effectivement, se terrer, disparaître.
C'est ça. On en a perdu quelques-uns, comme ça, avec Investir. Oui.
C'est ça. Et depuis l'arrivée
quand tu mets un collectif cohérent avec des joueurs intelligents, ça marche, tu vois.
Mais l'arrivée de Luis Enrique, elle l'a vraiment permis de voir une nouvelle facette de ce Vitinha, et ce, depuis le début de la saison, même si des fois il l'avait piqué avec sa non-titularisation à Newcastle, etc. On le voit vraiment d'un œil différent, même au Portugal. Et c'est pour ça qu'il a de plus en plus de force. Et même au Portugal, en sélection, il commence à un peu taper à la porte de la titularisation.
T'es en train de nous dire qu'on est en train de vous préparer, votre équipe, pour l'Euro, en train de vous chauffer, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes.
On pourrait préparer Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, mais ils veulent pas. Donc,
il n'y en a qu'un seul qui est prêt.
Me lancez sujet-là, parce qu'on va être chaud.
D'accord. Ça, ce sera pour 100% la PSG, la tribune, l'euro. On pourrait peut-être faire un truc spécialement pour l'euro. Ça va, mon Damien? Et bien, si shirt, hein?
Écoute, en vrai, je voudrais le porter. Je veux bien le porter, moi. Il y a 5 matchs de Ligue des Champions. Moi, je veux bien. Enfin, 5 matchs potentiels de Ligue des Champions.
Moi, je veux le porter 5 fois. Genre maintenant, si Vitinha fait pas gagner la Ligue des Champions,
non, en plus, quand je dis Vitinha, évidemment que de toute façon, c'est ça pour tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et bah si, et s'il y a une prestation collective qui est négative, je vais pas dire c'est de la faute de Vitinha ou quoi que ce soit. Je suis toujours objectif sur Vitinha.
Ce qui est loin, c'est que Vitinha aura été important dans cette campagne.
Ce qui est assez intéressant, Émilie, c'est qu'on voit que Vitinha est en train d'éclore, que Warren Zaïre et Emery est pris, il manque peut-être juste un joueur supplémentaire au milieu de terrain pour que ce PSG trouve enfin après.
Ça fait 7 ans maintenant.
7 ans, c'est ça.
On a toujours un milieu de terrain.
Mais il y en a un.
En fait, même quand on en trouve un,
c'est le mastermind. Tu sais, on trouve jamais la bonne combinaison. À chaque fois, merde, on en a deux. On était pas loin. Ah oui,
on disait, il nous faut une sentinelle depuis Mota. Là, avec ce que nous montre Vitinha actuellement, je suis pas sûr qu'il nous faille une sentinelle. Il nous faut un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'un grand numéro 8. Ça peut passer parce qu'on aurait Vitinha qui serait en numéro 6, un grand numéro 8 et Warren à côté. Donc le paradigme, enfin le prisme n'est pas le même.
C'est plus dur à trouver une sentinelle de haut niveau.
Oui, voilà, une sentinelle de haut niveau. Il y a Rodri, il y avait Busquets à l'époque et Brozovic. Et après, tout de suite, ça devenait un peu plus bas de gamme. Donc maintenant, comment ?
Gundogan ?
Ouais, Gundogan aussi, mais qui n'était pas vraiment sentinelle. Donc c'est voilà, là on a beaucoup plus d'options potentielles.
Je maintiens que Ugarte, laissons-lui digérer sa première année à Paris et on verra la saison suivante. Il n'a que 22 ans lui aussi. Ne le mettons pas à la poubelle notre Uruguayen parce que c'est 2 mois en début de saison. C'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Il nous a quand même fait un truc qui était énorme. Il va bien revenir à un moment donné quand il aura compris comment ça fonctionne à Paris. Voilà. Allez, les amis, on fait la pause dans 100% PSG, la tribune. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission pour parler Ligue des Champions, pour parler de Rennes. Et vous avez vu, on a parlé juste de Kylian Mbappé une fois sur un appel sur le côté, mais ça fait 40 minutes que l'on parle ballon, qu'on parle PSG. On n'a pas parlé de Mbappé, mais on va quand même parler du boudeur. Je l'aimais bien qu'on va pas partir sans se faire un petit bisou et sans parler de son...
Bon humoriste, boudeur.
C'est ça. Pardon. Non, c'est pas ça. Allez, laisse tomber. Arrête. Allez, on se retrouve.
Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu Paris.
Après la victoire de prestige au Vélodrome dans le Classico, le Paris Saint-Germain doit encore s'imposer, mais cette fois-ci en Coupe de France, pour obtenir son ticket pour la finale. Et oui, il y a encore un trophée à la clé. Et pour ça, il faudra battre Rennes. PSG Rennes, c'est à vivre ce mercredi, dès 20h30, sur France Bleu Paris.
France Bleu Paris, 100% supporters du PSG.
100% PSG, la tribune.
De retour dans 100% PSG, la tribune, Émilie Ross, Gary De Jesus, Romain Bédouc et Damien Doll sont avec nous pour cette émission autour du classique. On vient d'en parler, mais on va aussi parler désormais du match de Rennes. C'est demain, c'est en Coupe de France, la demi-finale de Coupe de France pour le Paris Saint-Germain, qui est un objectif cette saison clairement annoncée. Les Parisiens veulent remettre la main sur la Coupe de France et remporter peut-être la 15e Coupe de France de son histoire pour le PSG. Rennes est-il la répétition parfaite? Est-ce que c'est la répétition parfaite pour préparer le FC Barcelone? C'est la question que l'on pose. Comme ça nous permet de faire un petit mix. Tu parles de Coupe de France et tu parles de Ligue des Champions, car dans une semaine, à 8 jours maintenant, ce sera le match face au FC Barcelone du côté du Parc des Princes. Voilà pour le PSG. Est-ce que c'est la répétition parfaite pour le PSG? Je me retourne vers toi, Émilie. Cette équipe, ce PSG Rennes, est-ce que c'est la répétition parfaite?
Quand j'ai lu ta question, je me suis dit « Ah bah ouais, grave !» Et après, je me suis dit « Attends, c'est Luis Enrique. » Donc en fait, pas sûr. C'est-à-dire que c'est un match important, on l'a bien compris, dans les agendas. Après, est-ce que ce match va ressembler à l'autre tant dans la composition et dans ce qu'il va imaginer? En fait, aujourd'hui, je ne suis pas sûre. Donc en fait, pour moi, mon avis, c'est que oui, ça va être une bonne répétition par rapport au collectif, à ce qu'il y a à faire, même si, attention, ce n'est pas non plus la même intensité. Mais en tout cas, tu as deux matchs à enjeu, en tout cas. Mais comme je ne suis pas dans le ciboulot de Luis Enrique, que j'apprécie grandement, je n'arrive pas à me dire s'il va s'en servir véritablement comme une répétition ou alors... nous faire de nouvelles trouvailles ou de nouveaux intérêts, quoi. Donc pour moi, voilà, c'est une réponse de Normande.
Oui, mais c'est
par contre, je vous assure que je crois en ma réponse de Normande.
Alors, Normande de Picardie, enfin de Creil, quoi, voilà.
Allez, 6-0. Je vous embrasse.
Juste, je te rejoins sur ce que tu dis, c'est qu'on s'attendait tous à ce qu'il fasse peut-être tourner, à ce qu'il joue au coquin avec le match.
Il a fait tourner à la 60e. Hein. À la 60e, il sort Dembélé Mbappé.
Romain.
Donc, oui, enfin, pourquoi il les sort? parce qu'il a les mêmes yeux que nous, pour le coup.
Parce qu'il, alors, il y a ça, mais je suis sûr aussi qu'il y a de la gestion, la gestion d'effectifs. Et que dans sa tête, il n'est pas bête, Luis Enrique. Il sait qu'il hypothèque peut-être un peu plus ses chances de l'emporter et il prend un peu plus de risques d'être moins bon offensivement quand il sent Mbappé et Dembélé. Et il se dit, si je me quitte à, entre le repos de ces joueurs-là et concéder le 1 partout ou les garder et je gagne sûr, je vais quand même prendre le repos et au pire, je concède le 1 partout, c'est pas très grave, quoi. Donc j'ai senti un peu de gestion d'effectif là-dessus, moi. Pas sur le coup d'envoi, mais là-dessus, oui.
Est-ce que pour toi, pour le match de Rennes, Gary, ce Paris Saint-Germain va préparer, ça sera la grande répétition générale pour le FC Barcelone. On rappelle qu'il y a le match de samedi face à Clermont-Ferrand à 21h et que dans ces cas-là, par contre, là on sait qu'on est même capable d'avoir Keylor Navas dans la cage, que ça peut tourner grandement.
Non, je pense que c'est une répétition générale parce que ça reste un match à élimination directe. Tu joues une demi-finale, c'est-à-dire que dans deux matchs, tu as un trophée. Donc il va le prendre très sérieusement. Et tout à l'heure, quand on était en conférence de presse, il s'est montré très motivé à l'idée d'aller remporter cette Coupe de France. Et non, sincèrement, et tu dis qu'il a géré, pas forcément. Moi, je trouve que tu dis qu'il perdait un petit peu de force offensive. Apparemment, non. Vu comment le match s'est déroulé ensuite, vu la performance de Kylian Mbappé dans cette rencontre, au contraire, tu mets quelqu'un qui arrive avec de l'envie, avec du sang neuf et qui a marqué ce deuxième but. Donc au final, je pense que c'est la rotation d'effectifs à laquelle il nous a habitués depuis le début de saison. Et non, moi je pense qu'il va y aller à fond pour ce match contre Rennes et que c'est une répétition générale avant le Barça.
Damien.
Même si le déroulé du match lui a donné raison, c'est-à-dire que quand moi il sort Mbappé et Dembélé, parce qu'à la rigueur il en fait sortir un des deux, il fait sortir Dembélé par exemple, même que j'ai trouvé très bon, puis sa passe décisive en plus, il a joué comme il fallait sur l'action du premier but. Bon, il aurait fait sortir un des deux en disant on est à 10, donc il faut du sang.
Ouais, le double changement.
Le double changement, je dis ok, bon, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que c'est vraiment pour piquer Mbappé jusqu'au bout? Puis en fait, non, en fait, je me suis dit, après, je me suis repris, je pense juste que comment dire, qu'il est vraiment dans. Je pense vraiment qu'il s'est dit, bon, 60 minutes pour Mbappé. Voilà, on a peut-être qu'il s'était accordé en disant par rapport aux matchs internationaux, etc., on va pas le faire jouer 90 minutes. Vraiment, je pense qu'il y a une part de gestion. Et puis il y a une part de, comme il l'a dit en fin de match quand on lui a reposé la question, de c'est lui le chef, c'est lui qui dirige l'effectif, c'est lui qui décide de qui il sort ou pas. Et en plus, ce qui me fait vraiment dire que c'est de la gestion, c'est que juste avant, alors peut-être que sa décision était déjà prise, mais juste avant, Mbappé, en fait, il commence à prendre la mesure en fait de la profondeur que Marseille laisse après le premier but. Et en fait, tu sens que Marseille, s'il continue comme ça, en fait, ça a passé pour Mbappé, et puis parce qu'il va tenter une fois, trois fois, quatre fois, et puis il va rater, et puis à la cinquième fois, ça va réussir. Voilà, j'étais surpris, surtout qu'avec Gonçalo Ramos, t'as moins de profondeur, en fait.
C'est sûr.
En tout cas, c'est un très très bon attaquant de surface devant les cages, etc. Mais voilà.
T'as plus de pressing.
Oui, t'as plus de pressing. Parce
que Mbappé, il y a des moments dans la saison où Mbappé l'a un peu plus fait. Je pense notamment à la Real Sociedad. Dimanche, il n'était pas trop enclin à le faire. Hein. Donc, pressing. Et donc là, avec Gonçalo Ramos, on a vu tout de suite, la diff aussi.
Plus qu'avec Dembélé aussi. Donc on aurait pu se dire, par exemple, qu'il ne fait pas rentrer Kanginli, il fait juste rentrer Gonçalo Ramos à la place de Dembélé, par exemple. Ça aurait pas été.
Il était déjà rentré à la mi-temps, Kanginli, avec la place de Fabien.
Il rentre avec qui? Est-ce que c'est
la place de Fabien?
Kanginli? Ouais. Il remplace.
C'est à la mi-temps.
Allez-y, quoi. Il remplace quelqu'un à la mi-temps. On va revenir.
C'est pas Fabien?
Non, c'est pas Fabien Ruiz, justement.
Ah oui, c'est Fabien Ruiz qui est remplacé par.
Non, Colomoigny.
Colomoigny.
Oh, oui, c'est Fabien Ruiz qui est remplacé par. en tout cas, voilà, moi j'ai. Enfin, et puis, encore une fois, moi, comme à chaque fois, mais Luis Enrique, à nous tous qui en avons, on en reparlera juste après, mais marre du cirque de notre ami Kylian Mbappé, en fait, ça fait tellement du bien, en fait, il n'y en a rien à faire, en fait, du statut. Et là, en fait,
juste ça se trouve pour dire, bah, tu seras plus coach. En forme contre Rennes, je te fais sortir, t'es pas content, tu fais peut-être une petite insulte, comme on croit, là, de la déceler, voilà.
On en reparle tout à l'heure.
Voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un, j'ai souri. J'étais surpris, mais j'ai souri.
Pour rester sur cette Coupe de France, Emily, c'est, ça s'entend, toi, parce que PSG, tout le temps, Ligue des Champions, etc., ils veulent remettre la main sur cette Coupe de France, absolument, on nous le dit en interne. Est-ce
ah
que
bah
toi.
Grave.
Ah oui?
Ah ouais, grave.
Pourquoi?
Parce que c'est hyper vexant, sinon.
Enfin, c'est hyper vexant de l'avoir perdu depuis deux saisons.
Ouais, et si tu es le PSG, si tu as les enjeux normalement que tu as, le statut que tu as, les joueurs que tu recrutes, c'est pour tout gagner. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais donc tout gagner, c'est bah, du premier titre au dernier. Mmh. Ok, la Ligue des Champions, ça reste toujours compliqué, on passe toujours à côté. Mais les autres, en fait, il faut qu'on les empoche. C'est comme, tu sais, comme quand tu recommences un jeu vidéo où tu as perdu au niveau 8, bah, si tu veux passer le niveau 8, il va falloir que tu repasses les 7. Mais en fait, au bout d'un moment, comme ça fait 14 fois que tu joues, bah, tu les connais, tes 7 niveaux, donc normalement, tu les déroules. Et bah, pour moi, c'est la même chose, en fait. Et c'est pas concevable, un Paris Saint-Germain sans Coupe de France. Et surtout cette année où, pour moi, on est une équipe et un club en reconstruction avec un nouveau coach. Et justement, pour moi, c'est important de voir bah, les enjeux d'Enrique là-dessus et de gagner le plus de titres parce que vraiment, je veux croire en cette révolution qui est en train de se créer.
Tu as fait réagir le geek. Tu as fait réagir notre petit geek qui est juste en face vidéo. De toi.
Ouais. Non, mais
oui, mais toi, tu craques les jeux.
Ta question, c'est comme si on posait la question à Donnarumma. T'es à ta 10e parade, là. Tu veux pas en laisser un, là?
Pourquoi?
Tu veux pas laisser un but là aux adversaires là, c'est bon, t'as fait 10 arrêts. Non, on domine. On a des trophées à gagner.
D'ailleurs,
il y a un trophée en moins par an avec la Coupe de la Ligue en moins. Donc il y a plus que 3 trophées nationaux. Il y a le trophée des champions, on l'a gagné. Il y a le championnat, on va le gagner. Il y a la Coupe de France, on doit la gagner. On domine. Fin. Il y a pas de ah bah tiens, on va peut-être en laisser une. On en a trop laissé. On en a laissé les deux dernières saisons, c'était en 8e de finale. C'est fini maintenant. Il y a plus de.
Et pourquoi au final en plus? Parce que t'as pas laissé, tu vois, oublier. 8e
de finale, laisser le 8e de finale de Coupe de France de suite. Ça va, c'est bon. Non mais c'est pas une question de
c'est
si
tu
me
dis les autres,
si tu me dis
c'est ton palmarès de l'année,
une demi-finale de Coupe de France le lundi et une demi-finale de Ligue des Champions le mercredi et donc et bah ouais, est-ce que tu dois choisir entre les deux matchs? Oui, là-dessus oui, mais là s'il y a pas de problème niveau calendrier pour pouvoir tout enchaîner, tu gagnes.
N'empêche qu'on a toujours pas répondu, ou en tout cas à moitié, est-ce que c'est la bonne répétition pour préparer Barcelone, cette équipe de Rennes qui nous a posé problème au match retour au Parc, un partout, ça a
c'est
été galère
depuis, hein. Ah, c'est pas la même depuis là, ils sont galère en ce moment là.
Je vais reprendre la parole pour pas répondre à ta question. C'est sur la Coupe de France.
Ça va, allez, j'y vais. Là. Salut.
Non, mais la Coupe de France, en fait, c'est un peu le trophée du Paris Saint-Germain. Et avant que QSI revienne, là, je regardais combien on était. Mais on était à 8 Coupes de France avant que QSI arrive. Et pour le championnat, évidemment, on était beaucoup moins que ça. Là, cette fois-ci, on a rattrapé, on est passé devant. Mais sur la Coupe de France, en fait, on était à 8 contre, et Marseille était le premier. Donc, on était le deuxième. Marseille était le premier avec 10. Et sur les 10, en plus, il y en avait eu 3 dans les années 20. Donc, c'était avant que le football devienne professionnel. Donc, la Coupe de France a toujours été le trophée du Paris Saint-Germain depuis, en fait, qu'ils ont gagné leur premier trophée. Donc, il y a quand même une histoire particulière entre ce club et cette compétition. Et on a toujours dit que Paris était plus une équipe de coupe qu'une équipe de championnat pour X raisons. Et l'histoire nous a démontré le titre perdu en 96 contre Auxerre, etc. Enfin bref, toute une série de choses où on s'est écroulé sur la durée alors qu'on était plutôt un club de coup. Et là, voilà, on a l'occasion en fait de se réconcilier à la fois avec notre statut et aussi notre histoire. Et de gagner cette, je crois, cette 15e Coupe de France.
Je salue monsieur Jean-Marc Pilorget, qui voilà, un grand nom du PSG, qui a bien sûr le record de matchs avec le Paris Saint-Germain. Je lui avais demandé à une certaine époque, avant l'arrivée de QSI, pourquoi le PSG était juste bon en Coupe de France et pas forcément en championnat. Ce qu'il dit, bah en fait, le PSG c'est un sprinter. On n'est pas un club marathonien. On est adolescent. On ne sait pas gérer nos efforts. Par contre, on est capable de se concentrer sur un événement, sur un match, sur la rencontre, tu peux réussir à passer des tours comme ça. Il fait par contre, quand il faut travailler sur 38 journées, là c'est trop le bazar, il y a trop de faits qui sont autour du club qui te font exploser ton truc. Voilà,
je finis juste là-dessus pour aller complètement ouais. Dans ce sens-là, la Coupe de France gagnée en 2006 contre Marseille.
Ah ouais.
Si tu veux, en fait, c'est une saison naze de Paris. Une bonne saison de Marseille. Tu regardes les deux équipes en fait en face. Je te dis que normalement, bon, on est censé perdre. Et on gagne avec un but de loin de Dorasso.
C'est son seul, je crois que c'est son, alors c'est, je sais
plus, frappe de loin.
Voilà, c'est, je crois que ça se frappe de loin, mais il faut voir combien de buts il a marqué dans sa carrière, mais c'était, c'est famélique. et comment dire, on se retrouve avec ce truc, ce non-sens absolu. Et je peux dire, j'ai encore des amis marseillais, même qui sont encore dans le stade, etc. aujourd'hui, tu leur dis, parmi leurs pires matchs de leur histoire.
Ah oui, c'est sûr.
Parce que reste en travers de la gorge.
Ce match-là, il t'avait donné tes trois objectifs en une rencontre. Tu t'étais qualifié pour une compétition européenne parce que tu remportais la Coupe de France. Tu avais remporté un trophée parce que tu remportais la Coupe de France. Et tu tapais Marseille dans une saison qui était pourrie. Alors que Marseille, c'était le Marseille de Ribéry.
C'est l'année de l'ammoniaque, etc. En plus, ouais. Ça, c'était la.
Ah non, mais c'était. Vestiaire. Donc c'était vraiment, c'était un super souvenir. Et il y en a d'autres. Hein, dans les années 90, le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue en 98, c'était un grand souvenir.
Oui, Pampi, là, on part sur les souvenirs de Coupe de France,
d'accord.
Tu sais quoi?
La question,
mais non,
Tu veux que je réponde à la question de Rennes? Je peux répondre sur la répète générale.
Je vais faire une autre réponse de Normand. C'est oui et non. Il y a des aspects sur lesquels.
Vraiment, il y a des aspects. Vraiment, j'ai bien choisi ma question. Tiens, je te coupe. Lucas Dhorasoo, il a marqué 20 buts dans sa carrière et un seul avec le PSG, but en Coupe de France. Voilà.
Mais donc, oui et non, pourquoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure des problèmes défensifs avec le retour de Skriniar, etc. On ne sera pas en capacité d'aligner notre défense potentiellement titulaire face au Barça et face à Rennes en même temps, puisqu'on a au moins Beraldo, qui visiblement est un titulaire maintenant, qui sera suspendu. Et puis, on a Marquinhos qui revient pas forcément encore très très bien, donc on ne sait pas dans quelle disposition il pourra jouer. Donc là-dessus, sur l'aspect défensif, je pense que ça ne sera pas type. Offensivement, il va y avoir des connexions qui vont être travaillées en vue de Barcelone, ça c'est certain. Maintenant, Luis Enrique, ce n'est pas du tout le style de coach à dire « voilà mes cartes, regardez ce que je vais faire, ça va être ça, et maintenant adaptez-vous ». Non, il n'est pas du tout comme ça, il veut brouiller des pistes constamment, donc forcément, même dans une répète générale, il brouille des pistes et il met des joueurs à des positionnements peut-être un peu différents.
Depuis tout à l'heure, Gary a écouté les anciens combattants, mais il me fait des signes.
Je vais y aller, la partie d'émission, c'était pour lui, là, c'est bon. Attends, on a parlé en portugais, il m'a filé un t-shirt, attends, c'est bon.
Et c'est pas fini.
Attends, il y a ton anniversaire.
Il y a l'hymne à la fin du. Alors, pour répondre à ta question, oui.
Enfin, j'aime les bons élèves.
Aussi Fayot,
mais quel Fayot.
J'aime les bons élèves.
Je n'aime pas vraiment y répondre. Donc. Non, c'est dans le sens où une répétition générale, oui et non. Mais ce que je trouve important, c'est une répétition sur la mainmise de Luis Enrique sur cette équipe, et il y a une domination de Luis Enrique là. On le voit, il est très important, il est de plus en plus important, et dans les clubs qui vont loin, hein, dans toutes les compétitions en ce moment, dans le football moderne, c'est les coachs, les principaux personnages de l'équipe et du club, et c'est le cas. Et je pense qu'une défaite ou une élimination en demi-finale de Coupe de France, ça arrêterait une dynamique qui est ultra positive pour le Paris Saint-Germain, pour le coach et pour la mainmise du coach. Et donc, dans ce sens-là, je pense que ça peut être une répétition générale, oui, pour que le coach garde cette domination, on va dire, sur l'actualité.
Voilà. Pour ceux qui ne le voient pas, Bruno a un énorme sourire, car enfin quelqu'un a répondu à sa question.
Qui a répondu à la question. Et voilà, et sachez que je suis en train de regarder un peu ses trophées. Il a gagné Coupe du Roi avec.
C'est important pour les Espagnols, la Coupe du Roi. La Coupe nationale, c'est hyper important là-bas. C'est une... partout, ouais. Non, mais y a, je pense notamment, par exemple, en Italie, ça revêt d'une moins grosse importance que le Scudetto, etc.
En Angleterre, c'est super important.
En Angleterre, c'est important. En Espagne, c'est important. En France, il n'y a pas le même rapport. On trouve ça folklore, on trouve ça sympa, mais il n'y a pas du genre, il faut absolument gagner la Coupe de France tous les ans pour tous les clubs, quoi. Donc, qu'en Espagne, en Angleterre, ça l'est déjà un peu plus.
En tout cas, Rennes, Paris Saint-Germain, PSG Rennes, c'est à suivre demain sur l'antenne de France Bleu Paris à 21h10. Eh oui, on aime les horaires à la noix. 21h10, ce sera à suivre en intégralité sur l'antenne de France Bleu Paris. À noter que le coach parisien a annoncé que les pénaltys, ça se travaillait pas tout le temps, tout ça. Enfin bref, il a pas forcément travaillé son truc sur les pénaltys. Mais vous savez quoi, vu toutes les petits tours de bonneteau là qu'il nous fait, je suis persuadé qu'il a quand même préparé quelque chose. S'il faut faire un coup de jarnac à Rennes, ce sera à suivre bien évidemment. On rappelle que Rennes est 8e du championnat, il y a 23 points d'écart avec le Paris Saint-Germain, que le PSG les a battus à l'aller et a fait match nul Au retour, oui, c'est le temps de parler désormais de Kylian Mbappé dans ce podcast. Pour terminer, on n'a pas gardé le meilleur pour la fin parce que c'est finalement un peu le plus sombre. C'est ce qui nous agace un petit peu tous autour de la table. C'est cette 65e minute de jeu. C'est voilà, ce regard un peu dépité face à Marseille. Une lecture labiale de certains, voire une insulte pour peut-être Luis Enrique. Ou peut-être, parce que ça, il y a très peu de personnes qui l'ont mis en avant, mais peut-être aussi pour les 65 000 personnes qui sont en train de le siffler et de le huer. Ça peut être aussi ça, hein, l'énervement de Kylian Mbappé. Et la question qu'on s'est posée ensuite derrière, c'est bien sûr, il y a ce post Instagram avec cette très jolie photo. Franchement, bravo pour le choix de photo. De dos, Kylian Mbappé sous la pluie, tête baissée, avec son brassard à la main et qui s'en va, sort du terrain comme cela et sans aucun commentaire. Ça a fait bien sûr parler, je sais plus, au moins d'une soirée, d'une nuit, 2 millions de likes, des commentaires à foison et j'en passe. Et bien évidemment, la presse s'en est emparée. Je vous propose d'écouter notre entraîneur, Luis Enrique, qui était en conférence de presse aujourd'hui. Si vous commencez à reconnaître le son de ma voix pour la traduction, c'est normal, c'est bien moi qui ai fait la traduction. Je propose d'écouter Luis Enrique. Cette émission, c'est fait de briques et de broc. Tout de suite, on écoute Luis Enrique sur ce qui s'est passé donc avec son joueur. C'était tout à l'heure en conférence de presse. Ce qui est curieux, c'est de voir ce que génère une nouvelle qui est un mensonge. C'est fou de voir aussi ce que ça fait dans le monde du football et chez une partie des journalistes. Quelqu'un a inventé une insulte et à partir de là, il y a de la spéculation de tout genre. Mais je vis ça vraiment avec une totale tranquillité. Je fais mon job de la meilleure des façons. Je suis vraiment très content, je le répète souvent, de tous mes joueurs, Kylian Mbappé inclus. J'adorerais que cela se termine bien pour le PSG. De façon plus générale, merveilleusement bien aussi pour Kylian. Nous sommes tous dans le même bateau et nous cherchons le port du succès. Il s'est toujours comporté d'une manière spectaculaire et il continue à le faire. Après, pour terminer, je voudrais juste souligner, c'est un jeu médiatique qui ne m'affecte pas du tout et j'essaie de donner la meilleure version de moi-même. Et je me permets de saluer la señora Brasseur, ma prof d'espagnol en quatrième, puisque j'ai jamais décollé à plus de deux ou trois de moyenne. Voilà, mais je remercie surtout le traducteur du Paris Saint-Germain parce que j'ai pu récupérer tout ça.
Mais pourquoi tu le dis, Bruno?
Non,
révèle pas ses tours de magie.
Il est trop honnête. Non, je préfère le dire. Puis voilà, c'est toujours des souvenirs. À chaque fois, la señora Brasseur revient comme ça, tout d'un coup.
Ce jour, le vieux trauma.
Oui, les carnets de notes avec deux, et t'avais présenté ça à tes parents. Les amis, la question est de savoir, est-ce que Mbappé, Kylian Mbappé, est-ce que l'histoire peut vraiment se terminer correctement avec le PSG? On sent que, bah, je sais pas, il a envie de se faire détester. C'est pas possible, ce jeune garçon. Damien.
Je vais répondre à une de tes questions.
Ah, très bien.
Accroche-toi.
C'est parti.
Sauf si on remporte la Ligue des Champions, ça ne se terminera pas bien. Il faut être clair. Il faut être clair et net. Peut-être à cause des supporters du Paris Saint-Germain, enfin d'une partie des supporters du Paris Saint-Germain qui vont lui en vouloir. Peut-être à cause du club aussi qui n'arrive pas à se séparer de ses meilleurs joueurs. Vraisemblablement aussi à cause de Mbappé qui veut toujours se mettre en scène à chaque petite. Il sort à la 60e alors qu'on sort de la d'une période internationale, qu'on a un enchaînement de matchs, etc. C'est pas non plus démentiel comme en fait avec Messi, Ronaldo qui sortait jamais, en fait on a inventé en fait les stars qui ne sortent pas. Mais dans les années 90 ou début années 2000, etc., encore une fois, désolé de faire ancien combattant, tu avais des fois des stars qui sortaient parce que c'était crevé, parce qu'il fallait en fait
même Cristiano il était géré différemment par Zinedine Zidane aussi. À un moment donné il le faisait pas voyager quand ils allaient un peu loin, etc.
Non mais tu vois, par exemple, Messi, Ronaldo, non mais encore une fois, voilà, mais il y a eu quand même avec Messi, Ronaldo, il y a eu des, alors Messi aussi avec Luis Enrique d'ailleurs, il a eu une gestion, on s'en rappelle aussi un petit peu, qui avait fait un petit peu parler à l'époque, mais en réalité, quand on voit ce post Instagram, je me dis, mais c'est pas possible, en fait. Je le vois
c'est
sortir.
Sale, Pierre, c'est fou,
en fait, c'est ce que je vois sortir, et dégoûté de sortir contre Marseille et de pas remarquer de but. Franchement, je le comprends. J'en veux même pas de faire la tête, même s'il lâche cette insulte qui, apparemment, on est tous à lire une même insulte. Bon, apparemment, on se trompe tous. Bon, ok, c'est une sorte d'hallucination collective qui s'est déroulée. Mais quand même, il la sort en plus, mais c'est bon, quoi. Il est énervé contre le coach qui le sort dans un match très important pour lui. Il y a pas de problème. Et après, il fout ce post Instagram comme ça. Mais pourquoi tu nous fais ça? Et comme, enfin, j'ai mis juste ça sur Twitter. Du coup, j'ai eu plein de, moi aussi, j'ai eu quelques anglophones fans de Mbappé avec un anglais un peu particulier qui venait me taquiner. Mais on a l'impression que c'était le seul Parisien
qui n'était pas content en fait de la victoire. Mais même moi, il y a un but de Vitinha, je me suis levé, j'ai crié partout, je savais que j'en portais la gueule. Je savais déjà que j'allais venir au podcast. Mais j'en ai rien à faire, en fait. C'est contre Marseille. Qu'est-ce que tu t'en fiches, en fait, de comment ça s'est déroulé, etc. On a gagné, basta. Et en plus, il met cette photo avec son brassard de capitaine, genre, vous voyez, enfin, ce qu'il aurait pu en choisir d'autres photos. Son brassard, il est bien en évidence. Mais encore plus si t'es capitaine. Si t'es capitaine, t'as personne, en fait, on s'en fiche complètement pendant le match. Et encore plus après, une fois que le score est scellé, c'est bon. Qui passe à autre chose.
Il y a une image qui restera quand tu parlais de capitaine. Moi, il y a un garçon qui s'appelle Danilo qui, à la fin du match, a rameuté tous les joueurs au milieu de terrain. Les a mis en cercle, ils sont tous pris par les épaules. Cette image-là, je l'ai surkiffée parce que ça braille autour dans le stade, machin, ils font tous la tête et toi, tu viens célébrer comme une équipe. Émilie, dans ta vie, il y a le foot, mais il y a aussi la communication. Alors, on va pas parler de gestion de crise, mais dans la communication... C'était fait sciemment, il sait ce qu'il fait et il veut créer un mal-être, il veut se faire détester. Enfin, je ne sais pas, quel est le message pour toi ?
Pour moi, le plus compliqué, c'est de poster une photo sans légende. Ça peut paraître bête de dire ça, mais c'est-à-dire que quand tu légendes, au moins tu envoies un message et les gens peuvent se positionner. Le fait de ne pas mettre de légende, de mettre que cette photo, que tu peux du coup interpréter de 10 000 façons. Parce qu'au début, moi, j'avais vu la photo et je n'avais pas capté qu'il n'y avait pas de légende. Je me suis dit, oh, ça fait, tu sais, Last Dance, en fait. Petit père, peut-être qu'il est dégoûté de partir. Genre un peu maman les petits oiseaux, moi, tu sais. Tata était contente, en disant, bah, c'est bien, regarde, il est triste, ça m'arrange. Puis après, j'ai vu qu'il n'y avait pas de légende. Je me suis dit, ah, puis attends, mais en fait, on voit que lui avec le brassard. Et en fait, tu ramènes tout à ton nombril. Mais là encore, ce que je dis est peut-être une interprétation. Parce que tant que...
C'est le but qu'il y ait 25 000 interprétations là-dessus.
Et moi, ce qui m'agace, c'est qu'en fait, quelle que soit la journée que tu passes avec le Paris Saint-Germain, quel que soit le match, in fine, tu arrives à parler de Mbappé. Et
regarde notre émission, hein, on aura fait une heure et on lui réserve notre dernier
quart d'heure. Alors qu'on aurait pu parler de sa prestation, pour le coup, sportive, tu vois, sa prestation footballistique au classico.
Mais est-ce que c'est pas le but, ça aussi?
Et oui, mais justement, qu'est-ce que t'as fait, frère, en fait? Au lieu de poster des photos Instagram, viens, montre que... Parce que là... T'es sur 10 jours qui sont pas complètement ouf. Et bah, mollo lastico, en fait.
Moi, je. Il y a une volonté de rester flou, en fait. Du coup, comme tu dis, mais pas de légende.
Ouais, c'est... mais pense au collectif. Hein, tu vois, c'est encore une fois, c'est ton nombril. Enfin, tout ça, moi, plus ça va. Et pourtant, je reconnais les assets de communication et limite le brio de tout ça. Parce que du coup, chaque journée, son nom est cité. Enfin, le gars ou la meuf qui est censé faire, tu sais, les piges de son nom tombe où, là? La revue de presse, oh, bah, elle est en sueur, quoi. Elle n'arrête pas. Ça, c'est un bon travail. Mais au bout d'un moment, c'est trop et tu nuis et effectivement au club et tu nuis au collectif. Et en fait, moi, c'est pas mon football. Plus ça va et moins c'est mon football, alors que c'est vraiment un joueur que je soutiens parce que je pense qu'il peut... élever le football et la France.
Mais on parle
je vais
pas
loin,
joueur,
mais
hein.
je le crois vraiment.
Mais on parle pas du joueur, là. C'est parce que je pense que le joueur, on est tous d'accord que quand il est performant, on adore ce style de joueur. On ne nie absolument pas les capacités qu'il peut avoir à faire briller n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle compétition, à n'importe quelle hauteur de compétition. De tout ce qu'on parle et tout le ressenti qu'on a là, c'est sur l'image qu'il nous renvoie. Et c'est pas et là on n'est plus dans le foot, on n'est plus dans le joueur. Le problème c'est que au fur et à mesure de sa carrière, l'image renvoyée a pris le pas sur le sportif. Et là, on est typiquement dedans. On est sur un joueur qui un soir de classico, capitaine du PSG au coup d'envoi,
en plus,
capitaine.
Ce qui était génial en termes d'image
dire,
là pour
ça
le
veut dire un truc. Hein. Ça veut dire un truc capitaine du PSG normalement. Capitaine du PSG, il fait ce poste-là, alors que tout le monde dit, bah, le classique, il est à nous, les remplaçants, Asensio qui vient, qui met des photos comme ça, Lucas Hernandez, Marseillais, qui dit un classique, ça joue pas, ça
Navas
se gagne.
Navas qui danse quand tu arrives sur le tarmac, Navas qui se permet de danser, alors qu'on sait qu'il est limite en dehors de tous les plans de jeu possibles.
Mais oui.
Et il se retrouve à danser lui, et tu le vois content.
Et moi, j'ai une interprétation. L'interprétation que j'ai, c'est que on sait qu'il y a un documentaire qui se prépare sur la dernière saison de Kylian Mbappé au PSG.
Ça, je vous le confirme.
Le documentaire, là, il en prend un coup, hein, le dimanche soir. Parce qu'il y avait The Last Dance. Il y avait le dernier match de Kylian Mbappé au Vélodrome, à Marseille, etc. Et on lui a enlevé ça.
Mais il nous l'a enlevé aussi.
Luis Enrique lui a enlevé ça en le sortant à la 60e. Alors que t'as raison, il aurait pu marquer avant, il aurait pu faire la décision avant, etc. Sauf que lui, il va plus axer là-dessus.
Il va plus et être en mode en mode capi sur le banc.
Moi, mon pauvre, regardez moi, le sort qu'on me laisse. Alors que ça fait 15 jours qu'il est pas bon, tu le dis. Ouais. Ça fait 15 jours avec l'équipe de France, et l'équipe de France, il a joué deux fois 90 minutes. Hein, et il
ça,
était pas bon.
Ça, par contre, Didier Deschamps, il est gentil, mais sa gestion de Mbappé.
Didier Deschamps, il veut que le
Colomoigny joue c'est plus. C'est même que Galtier.
Il veut que Colomoigny joue plus avec le Paris Saint-Germain pour pas le mettre avec l'équipe de France. Et il veut que. Et il veut que là, Mbappé, voilà. Bref.
Calme-toi, mais c'est honteux.
L'avantage de ce truc-là, c'est que ça y est, c'est fini. Et moi, ça me touche plus. En début de saison, ça m'énerve que ça prenne le pas sur l'actualité du Paris Saint-Germain et sur une victoire au Vélodrome.
Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me saoule pour le collectif, mais en soi, ça y est.
Mais ça ne me touche plus parce que je me disais avant, s'il fait la tête comme ça, ça va peut-être jouer sur sa prolongation et donc on l'aura peut-être. Non, on l'aura plus. Fin. T'es pas content, barre-toi. Et puis voilà, laisse-nous.
En tout cas, une chose, je ne sais pas la corrélation, mais sachez-le. Des athlètes du PSG hier, dont Kylian Mbappé, ont fait rendu visite à des enfants à l'hôpital Necker. C'était lundi de Pâques. Je vous la glisse comme ça. C'est à la demande.
Je pense pas qu'il y ait de lien avec.
Demande de Nasser Al-Khelaifi. Sachez-le, ça a été organisé dès la semaine dernière. On vous l'explique sur FranceBleu.fr. Ça a été organisé la semaine dernière. Je ne sais pas si les joueurs de foot étaient prévus. Dans ce plan.
Ah, tu penses qu'il s'est rajouté à côté de ça ?
Je ne sais pas.
Mais c'est quoi là-dessus sur les trucs comme ça, sur les trucs comme ça avec les enfants, etc.
Ils ont vécu leur meilleure vie, c'est pas grave. En tout cas, ils ont vécu leur meilleure vie et on voit un Mbappé qui c'est le seul endroit où il est bien et je pense où il est extrêmement honnête dans ce qu'il fait quand il fait première cordée, quand il fait aussi
les passages avec la fondation, etc.
Avec l'association, avec les kids, il est bien. Mais il est passé avec la fondation. Alors là, une fondation qui semble-t-il a changé de nom, je vous le dis. Ça s'appelle PSG for Communities. Voilà.
La fondation PSG.
Ouais, c'est ça.
C'est le Dircon de Mbappé qui a choisi ce nom-là aussi.
Non, je vous l'assure. C'est le nouveau.
Ah oui, t'as raison, j'ai vu. Non, mais parce que du coup, j'ai dit.
Elle l'a pas vu.
Non, j'ai un follow. Mais c'est quoi ce compte que je suis? Ben non, c'est la fondation. Je m'excuse. Bah oui, mais ils m'ont pas dit qu'ils changeaient de nom.
Voilà. Gary sur cette affaire Mbappé. Est-ce que ça peut bien se terminer ou de toute façon il faut que ça se termine. C'est dans deux mois. Hein. Dans deux mois, ça se sera plié. On se dira au revoir et certains iront l'aider pour faire ses cartons.
Mais écoute, je pense que tout a été à peu près dit. Je vais rien inventer. J'ai du mal à croire que ça se termine bien si Kylian Mbappé n'est pas le personnage principal de la saison du Paris Saint-Germain. Et comme pour l'instant, ça ne l'est pas, je le disais tout à l'heure, c'est Luis Enrique. Peut-être que c'est un lien avec son documentaire, je ne sais pas. Mais ça n'a pas dû plaire en tout cas. Et de toute façon, la fin de son documentaire, ça se terminera bien, parce que ce sera son arrivée au Real Madrid, dans son club de cœur qu'il a toujours rêvé de rejoindre. Donc, je pense que de toute façon, son documentaire, il se terminera bien, puisque ça terminera au Real Madrid. Et la fin de saison du Paris Saint-Germain, si elle ne finit pas comme lui le veut, il en est un petit peu aussi responsable, parce qu'il ne met pas une ambiance énorme dans ce Paris Saint-Germain là. Dès qu'il poste quelque chose, il ne fédère pas. Dès qu'il poste quelque chose, il tient. J'ai l'impression que son seul objectif, c'est de rester flou. Justement, comme tu disais, le truc de la légende, j'avais pas forcément tilté sur le moment. Et en fait, c'est dans tous ses postes, et c'est pas le seul footballeur, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, c'est de rester flou.
Quand tu restes flou, tu prends pas position, et si tu prends pas position,
tu peux dire à ton employeur, c'était juste une photo.
Ouais, voilà. Mais malgré tout, pour le fait que tu sois capitaine, pour revenir sur ce qu'il disait, sur tout ça, tu réunis tout ça. C'est complètement fou. Dans n'importe quel autre pays de foot, il se fait découper. Mais en 8. Et en France, on a du mal à toucher à la légende Mbappé. Et après, on dit oui, on ne sait pas traiter nos stars. Dès qu'il va partir à l'étranger, il va pas être pareil. C'est ça aussi qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'en France, il se permet des choses que jamais de la vie il se permettra au Real Madrid, où il sera dans une.
Là, j'ai un doute. Encore une fois, les 6 premiers mois. Il y a pas de souci, il va être nickel, il va faire ce qu'il faut, en plus il sait déjà parler espagnol, etc. Ça va être super. Il suffit qu'il soit sur le banc 2 matchs de suite, par exemple, parce que Vinicius, par exemple, qui va jouer dans sa zone préférentielle, Moi, j'aimerais, moi, j'attends de voir, en fait. J'attends de voir.
Ouais, parce que c'est le héros, mais je veux dire, au Real Madrid en Espagne, on connaît tout ça un petit peu comment ça se passe. Vinicius, il s'en est pris de partout. Karim Benzema, j'en parle même pas. Ça a été très difficile. Il a eu des époques très difficiles au Real Madrid. Tout le monde, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane. Kylian Mbappé, il va pas être épargné quand ça va mal se passer. Ils vont l'attendre au tournant, c'est sûr.
Au début, moi, je pensais comme toi, Gary. Je te parle avant 2022. Je pensais comme toi. Je pensais que. Mais non, mais avant justement l'épisode de 2022, parce qu'on parle beaucoup de. Nous, on a le prisme Paris Saint-Germain de ce qu'on a. Kylian Mbappé a prolongé au PSG, c'est vachement bien. Ce qu'il a fait au Real Madrid là-bas.
Ah, mais oui.
Pour son club de cœur. Bien sûr, ouais. Ce qu'il a fait au Real Madrid. Justement, le fait que le Real revienne après toute l'histoire du le train ne passe qu'une fois, etc., ça me laisse un peu plus douter sur le fait que tout ne lui sera pas pardonné. Je pense qu'il pourra avoir une certaine flexibilité, une certaine liberté, comme il l'a au PSG. Moins, ça c'est clair,
c'est sûr,
c'est certain. Mais je pense qu'il y aura quand même un truc, il ne sera pas complètement.
Le mec, il t'envoie un texto, j'arrive, il arrive 2 ans après. On a un problème sur le j'arrive.
Damien, tu veux finir. Tu veux clôturer là-dessus.
Ben, ouais, moi, en fait.
Mais je suis entièrement d'accord avec Damien. Je suis entièrement d'accord avec Damien.
Très bonne conclusion, d'ailleurs.
Dans la vie, dans la théorie générale.
Une bonne histoire de fin que s'il y a victoire en Ligue des Champions. Tout autre scénario n'est pas.
Moi, il met un triplé. Bon, du coup, ça va faire beaucoup de mauvais à mettre, mais il met un triplé. Il met un triplé en finale de Ligue des Champions.
Oui, bien sûr.
Mais je scanderai son nom. Mais franchement,
moi aussi.
Tous les supporters du Paris Saint-Germain.
Oui, sans aucun état d'âme. Et après, bah, il s'en va, et puis bah, c'est comme ça. Et puis en fait, c'est bon, nous, on a une finale des champions. La Ligue des Champions, après le reste, franchement, on s'en foutra.
Mais je pense qu'il n'y aura jamais cet attachement.
Les Jeux Olympiques annulés, je sais pas quoi, la flamme olympique qui tombe dans la Seine, tout ça, on n'a strictement rien à faire. On sera en plénitude. Alors évidemment, ça risque de ne pas se passer comme ça. Mais voilà, vraiment, c'est. Et je pense qu'il le sait, hein, sa legacy là, au Paris Saint-Germain, maintenant, c'est quasiment que. Maintenant que le championnat
Il a fait Lille,
etc.
Lille a vraiment fait tapis. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment sur cette Ligue des Champions.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait la même chose à Monaco. Il a réussi à se faire détester par une partie des gens à Monaco en partant. Je vous invite, le fais pas souvent, mais je vous invite à un peu de lecture. C'est un article de l'équipe assez long et complet. Ça a été sorti le 16 mars dernier sur Avant Mbappé, comment se sont passés les adieux de Michel Platini avec la France. Je vous laisse aller regarder cet article qui est excellentissime et ça vous fera voir que la France a hué Platini, que les
supporters le parc.
Voilà, que les supporters des Verts les avaient vraiment mauvaises et que c'était, il y a peut-être pas les réseaux sociaux.
J'étais pas né, il est parti gratuit Platini.
Oui, il touche rien. Et en plus, il fait courir Arsenal. Je découvre ça, il fait courir Arsenal pendant des plombes. Arsenal pense le prendre et en fait il se barre à la Juve et en fait il leur fait un coup de salut. Je me tiens. Non, franchement, allez-y, c'est parfait. Je voulais conclure là-dessus, hein, je pense que c'est le plus simple. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Émilie Ross, Damien Doll, Gary De Jesus et l'ami Romain Bédoux que vous retrouvez demain matin à 8h34 sur l'antenne de France Bleu Paris. N'hésitez pas avec les pouces, les likes. Je remercie tous ceux et celles qui ont réalisé aujourd'hui le podcast parce qu'on a débordé. On devait rendre à 18h, on a attaqué l'enregistrement un peu tard, donc on a un peu débordé. Donc pardon et merci à la team d'avoir pris le relais. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, des commentaires, des pouces, des likes, vous nous dites de quel coin vous êtes, ce que vous avez pensé aussi, des débats. Et la semaine prochaine, je vous l'annonce, il y aura 2 tribunes, une avant PSG Barcelone et une après le débrief pour bien sûr commenter la victoire du Paris Saint-Germain face aux Barcelonais. J'espère que je vais pas nous porter l'œil. Les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée, soirée. On se rejoint demain pour PSG Rennes en intégralité, demi-finale de Coupe de France à suivre avec le Rico Rabé-Santana et avec Miguel de Rennes. Il est temps de débrancher ce podcast.